Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balade. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité. Et par l'engendreur et ce qu'il engendre, très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 4 novembre 2023. Dans quelques instants, je vais vous présenter le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Le génocide israélien à Gaza en 2023 a ses racines dans la déclaration Balfour de 1917. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran célèbre la journée nationale de la lutte contre l'arrogance mondiale. Toutes les options sont sur la table contre Israël, a martelé le secrétaire général du Hezbollah libanais. Et le Parlement algérien a accordé au président du pays le droit de déclarer la guerre à Israël. C'était les principaux titres. En voici le journal. Des millions d'Iraniens sont descendus dans les rues à travers le pays pour commémorer l'anniversaire de la prise de contrôle de l'ambassade américaine, le nid d'espionnage, baptisé « Journée nationale contre l'arrogance mondiale ». Des rassemblements de masse ont eu lieu ce samedi 4 novembre dans la capitale Téhéran, à 9h, heure locale, et dans quelques 800 villes et villages à travers le pays. Chaque année, des manifestants se rassemblent devant l'ancien siège de l'ambassade américaine à Téhéran, scandant « Abat les États-Unis » et « Abat Israël », le plus proche allié de Washington, pour exprimer leur indignation envers les actions de l'arrogance mondiale. Sur les chemins empruntés par les manifestants, de nombreux stands ont été installés pour décrire les crimes commis par l'Occident contre la République islamique et d'autres pays du monde. Il y a 44 ans, le 13 Aban du calendrier iranien, soit le 4 novembre 1979, des étudiants iraniens ont pris le contrôle de l'ambassade américaine à Téhéran, également connue en Iran comme le nid d'espionnage des États-Unis. Moins d'un an après que la révolution islamique ait renversé la dictature Pahlavi, soutenue par Washington. Ce jour a été baptisé « Journée nationale de lutte contre l'arrogance », qui coïncide avec la Journée nationale des élèves en Iran. Chaque année, des manifestants, notamment composés d'écoliers, commémorent la Journée nationale de lutte contre l'arrogance mondiale à travers le pays, appelant tous les musulmans et les nations en quête de liberté à résister contre l'arrogance mondiale et à ne pas céder à leur brimade. Ce jour est devenu le symbole de la résistance et de la lutte acharnée contre l'impérialisme occidental. À l'international, le 13 Aban marque la victoire de la nation iranienne sur l'hégémonie mondiale, un modèle pour tous les épris de la liberté dans le monde entier. Le ministre iranien des Affaires étrangères a exhorté l'Angleterre à adopter une approche réaliste envers les développements dans la région de l'Asie de l'Ouest. La crise en Palestine est enracinée dans l'occupation par le régime israélien, a-t-il rappelé. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a effectué vendredi 3 novembre un entretien téléphonique avec son homologue britannique, James Cleverly. Je conseille au gouvernement britannique d'adopter une approche réaliste envers les développements de la région. Quelle que soit l'approche à adopter, il faut savoir que la crise palestinienne est enracinée dans l'occupation par le régime israélien. Du point de vue du droit international, le peuple du pays occupé jouit du droit à la légitime défense. M. Amir Abdollahian a appelé à la cessation immédiate de la guerre du régime sioniste contre la bande au Gaza et au transfert massif de fournitures humanitaires vers le territoire palestinien. Le ministre iranien a également déclaré que le soutien à tous azimuts des États-Unis au régime sioniste avait contribué à l'exacerbation des hostilités dans la région. Il a conclu son entretien en rappelant que les forces de la résistance dans la région ne reçoivent pas d'ordre de l'Iran, mais qu'elles prennent plutôt des décisions basées sur les circonstances et en fonction des priorités de sécurité nationale et régionale. James Cleverly a pour sa part demandé à la République islamique d'essayer d'empêcher l'expansion de la guerre, rappelant son influence régionale et les conventions diplomatiques signées entre les deux pays. Au cours d'un autre appel téléphonique avec le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, M. Amir Abdollahian a exprimé son inquiétude quant aux retombées de la guerre d'Israël contre la bande au Gaza sur la région. La Russie et l'Iran ont une position commune envers la situation en Palestine occupée. Moscou craint que l'expansion de la guerre ne rende la situation incontrôlable, a dit pour sa part le chef de la diplomatie russe. et lors d'une conversation téléphonique vendredi avec son homologue syrien Faisal Mirdad, M. Amir Abdelayen a affirmé que les combattants palestiniens et tous les mouvements de résistance dans la région sont prêts à résister à l'ennemi israélien et à contrer toute initiative contre le peuple palestinien sans défense. M. Mirdad a pour sa part réaffirmé la position de principe et immuable de la Syrie sur un soutien ferme à la Palestine et au front de résistance, malgré ses propres problèmes. Il a exhorté le monde musulman à renforcer son unité pour faire face au régime d'apartheid et a appelé les pays de la région à rester vigilants face au complot ourdi par les États-Unis et Israël. Vendredi, au 28e jour des attaques génocidaires d'Israël contre la bande de Gaza, le bilan a atteint au moins 9227 morts, dont 3826 enfants et 2405 femmes. Au moins 23516 personnes ont été blessées. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Sayed Hassan Nasrallah, a déclaré que l'opération Tempête Al-Aqsa avait été entièrement menée par des mouvements de résistance palestiniens. La grande opération Tempête Al-Aqsa a été décidée et réalisée à 100% par des Palestiniens, a déclaré Nasrallah dans un discours télévisé vendredi 3 novembre, une première depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza le 7 octobre. Nous n'avons pas été gênés par la dissimulation par le Hamas du plan d'attaque du 7 octobre. Les conditions en Palestine ces dernières années ont été extrêmement dures, en particulier avec ce régime extrémiste, insensé, stupide et sauvage, a-t-il dit. Nasrallah a présenté ses condoléances et félicitations aux familles des personnes tuées à Gaza et en Cisjordanie occupée. Il s'agit d'une bataille sans faille au niveau humain, ethnique et religieux. Notre véritable force réside dans notre ferme conviction inébranlable, notre dévouement et notre engagement envers la cause palestinienne, a déclaré le leader du Hezbollah. Nasrallah commence son discours en faisant l'éloge des martyrs du Hezbollah et d'autres groupes de résistance combattant Israël ainsi que des civils tués. Nous devons également saluer le courage des puissantes forces irakiennes et yéménites qui sont désormais impliquées dans cette guerre sainte, a-t-il encore dit. Il fallait qu'il y ait un événement majeur qui ébranlerait l'entité usurpatrice et ses partisans à Washington et à Londres. Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu l'opération bénie du 7 octobre. Dans un geste significatif, le Parlement algérien a officiellement autorisé le président, par un vote à la majorité, à entrer dans le conflit pour soutenir Gaza, si nécessaire. La décision intervient en réponse à l'escalade des massacres israéliens contre la population palestinienne dans la bande de Gaza assiégée. Le Parlement a apporté son soutien au président Abdelmadjid Tebboune, l'autorisant à intervenir dans le conflit en réponse à l'escalade des attaques israéliennes sur Gaza, si nécessaire. La séance de vote s'est déroulée alors que les députés scandaient des slogans de soutien au peuple palestinien et aux groupes de résistance. L'Algérie est le premier pays arabe dont le Parlement autorise et légitime officiellement les forces armées du pays à déclarer la guerre à l'entité sioniste pour soutenir la nation opprimée de Palestine. De nombreux experts estiment que si l'Algérie entre en guerre directe avec Israël, le détroit de Gibraltar deviendra dangereux pour les alliés du régime sioniste. Aux États-Unis, des manifestants pro-palestiniens ont bloqué le port d'Oakland, en Californie, pour empêcher le départ d'un navire militaire américain qui doit transporter des armes vers Israël. Au moins 200 manifestants opposés à l'aide militaire américaine à Israël, qui mène une guerre meurtrière contre la bande de Gaza, ont bloqué vendredi 3 novembre le départ d'un navire de ravitaillement militaire destiné à livrer des armes aux territoires occupés. Plusieurs manifestants ont grimpé sur une échelle située sur le côté du navire fixée à une écoutille de chargement. Le Centre arabe de ressources et d'organisation, AROC, a organisé la manifestation. La communauté a appris, grâce aux membres courageux de l'équipage, que le navire se dirigeait vers Israël pour transporter des marchandises militaires vers cette entité, a déclaré Lara Kisvani, directrice exécutive du groupe. L'objectif est d'amener les travailleurs des navires à se solidariser avec le mouvement anti-armes, a-t-elle indiqué. Les États-Unis, le plus grand et le plus ancien allié d'Israël, ont fourni au régime sioniste des milliers d'armes depuis le 7 octobre. Et pour fermer le journal, l'Honduras a rappelé son ambassadeur des territoires occupés pour des consultations autour de la guerre extrêmement meurtrière et dévastatrice menée par le régime sioniste contre la bande au Gaza. Le ministère hondurien des Affaires étrangères a annoncé cette nouvelle vendredi dans un message sur X citant les violations par Tel Aviv du droit international humanitaire à Gaza. Jusqu'à présent, le Chili et la Colombie ont également rappelé leurs envoyés des territoires occupés, tandis que la Bolivie a rompu ses relations diplomatiques avec l'entité occupante. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le génocide israélien à Gaza en 2023 a ses racines dans la déclaration Balfour de 1917. Mohammad, Jad et Layan ont été tués avec leur petite sœur Zayn, leur mère Lubna et leur père Samer lors d'une frappe aérienne israélienne dans la bande au Gaza assiégée en début de semaine. Ils n'avaient pas encore fêté leur 10e anniversaire. Comme les enfants d'autres régions du monde, ces enfants étaient pleins de vie, excités par l'arrivée de leur petite sœur, qui était devenue l'idole de la famille. Depuis le 7 octobre, plus de 8 800 Palestiniens, dont 40% d'enfants, comme Mohammad, Jad, Layan et Zayn, ont été tués dans cette enclave palestinienne, souvent décrite comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Cependant, le sort des Palestiniens ne se résume pas à ces 4 semaines. Il est ancré dans l'histoire, dans l'usurpation de leurs terres, la destruction de leurs maisons, le déni de leurs droits et le nettoyage ethnique. En 1917, Arthur Balfour, alors ministre britannique des Affaires étrangères, a écrit à Lionel Walter Rothschild, figure de proue de la communauté sioniste britannique, au sujet de l'établissement d'une terre juive en Palestine. Le contenu de la lettre, écrite le 2 novembre 1917, est devenu la déclaration de Balfour. La déclaration a été rédigée pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, et constituée une partie importante du mandat britannique après la chute de l'Empire ottoman. Cette lettre a scellé le destin des Palestiniens et ouvert un chapitre marqué par l'occupation et l'apartheid. Aouni Abdaladi, personnalité politique palestinienne de renom, écrit dans ses mémoires que la déclaration a été faite par un Britannique qui n'avait aucun droit sur la Palestine. Après la Première Guerre mondiale, en vertu d'un système controversé, les pays vaincus ont dû céder les territoires qu'ils contrôlaient aux États victorieux. On pense que ce système devait permettre aux États victorieux d'administrer les nouveaux pays jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. Cependant, le système des mandats n'a pas été suivi dans le cas de la Palestine. Mais une décision très étrange et profondément controversée a été prise concernant le territoire palestinien. La déclaration de Balfour est apparue comme un engagement public à établir un État pour les Juifs en Palestine. Les premières versions de la déclaration controversée ont même utilisé l'expression « la reconstitution de la Palestine en tant qu'État juif », indiquant clairement le plan de l'État britannique visant à l'épuration ethnique des Palestiniens. Le plan a été mis en œuvre et la Grande-Bretagne a commencé à faciliter l'immigration juive en Palestine. Entre 1922 et 1935, la population juive a augmenté de 27% contre 9% seulement avant 1922. À la fin de l'année 1939, la Grande-Bretagne et les groupes sionistes alliés ont lancé une campagne de grande envergure pour écraser les Palestiniens. Des villages ont été détruits, des couvre-feux imposés et des milliers de personnes tuées, blessées et arrêtées pour ouvrir la voie à la création de l'entité sioniste. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mandat britannique en Palestine expirait. Ils sont partis. Les groupes sionistes se sont lancés dans une expédition violente pour étendre l'entité occupante illégitime. Ce massacre, à grande échelle, des Palestiniens et leur exode massif ont conduit à la Nakba ou à la catastrophe. Ce système d'apartheid a conduit à la première intifada en décembre 1987. Durant la première intifada, le mouvement de résistance palestinien Hamas basé à Gaza a vu le jour. La deuxième intifada a eu lieu en septembre 2000, lorsque Ariel Sharon, qui devint plus tard premier ministre, fit une visite provocante à la Sainte Mosquée Al-Aqsa. La prise du pouvoir par le Hamas à Gaza et l'éviction du régime sioniste du territoire côtier ont conduit à un blocus humanitaire paralysant qui n'a fait que s'intensifier au fil des années. Depuis près de deux décennies, plus de 2 millions de personnes vivent sous le choc du blocus. Durant cette période, le régime africain a attaqué la bande au Gaza. En 2008, 2012, 2014, 2021 et maintenant en 2023, des milliers de Palestiniens ont été tués par le régime occupant. Ce qui a commencé avec la déclaration de Balfour il y a 106 ans se poursuit aujourd'hui. L'extermination des Palestiniens, pour la plupart d'entre eux, comme Mohammad, Jad, Layan et Zayn.
Bonjour à tous, bienvenue sur les plateaux de télévision de Presse TV, ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour est l'appel du leader de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Khamenei, aux sanctions contre l'entité terroriste sioniste qui est en train de bombarder donc Gaza, qui a fait presque 9000 morts à l'heure du jour. Donc c'est le sujet de notre débat. Comme le veut notre programme, nous avons préparé tout d'abord un reportage expliquant la situation, notamment en reprenant le discours du leader de la révolution islamique. Et par la suite, nous ferons venir nos deux invités. Donc tout de suite, je vous propose le reportage.
Approche de la journée nationale de la lutte contre l'arrogance mondiale et à la journée nationale des lycéens, l'honorable ayatollah Seyyed Ali Khamenei a reçu en audience un grand nombre d'étudiants et de lycéens de tout le pays. Le 13 Aban du calendrier persan, soit le 4 novembre, marque l'anniversaire de la prise de contrôle de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979, appelée en Iran le nid d'espionnage. L'ayatollah Khamenei a déclaré que la prise du contrôle de l'ambassade américaine à Téhéran était un coup dur pour Washington. Plus loin dans ses propos, le leader a félicité les Palestiniens pour leur résistance et leur fermeté face aux atrocités israéliennes dans la bande de Gaza assiégée, affirmant que leur résistance a éveillé la conscience humaine. Ce sur quoi les États musulmans doivent insister, c'est la cessation immédiate des crimes israéliens à Gaza. Ils doivent rapidement cesser les bombardements et arrêter l'exportation de pétrole et de produits alimentaires vers le régime sioniste, a-t-il renchéri. Il a ajouté, les États musulmans doivent cesser leur coopération économique avec le régime sioniste, condamner explicitement ces crimes au sein des forums internationaux. L'ayatollah Khamenei a indiqué, le monde musulman ne doit pas oublier que tout au long du conflit à Gaza, le parti qui s'est opposé à l'islam et à la nation palestinienne opprimée était formé par les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne. Dans ces transactions, ces équations et ces analyses, le monde musulman ne doit pas oublier le parti qui s'oppose au peuple opprimé de Palestine et qui exerce des pressions sur lui. Il s'agit simplement du régime sioniste, a ajouté l'ayatollah Khamenei. La question centrale aujourd'hui n'est pas la guerre israélienne contre Gaza, mais plutôt la bataille entre la vérité et le mensonge. La lutte entre le pouvoir de la foi et le pouvoir de l'arrogance. Bien sûr, le pouvoir de l'arrogance s'accompagne de pressions militaires, de bombardements ainsi que de calamités et de crimes. Mais la puissance de la foi vaincra avec la grâce de Dieu, a-t-il poursuivi.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Alors tout de suite, nous allons présenter nos invités. Tout d'abord, Monsieur Amrouni, expert en géopolitique, souvent sur la question iranienne. Bonjour Monsieur Amrouni, ravi de vous avoir avec nous.
Bonjour à vous, à votre équipe, à votre cher invité et à tous nos chers téléspectateurs.
Un plaisir de vous avoir et d'avoir la possibilité d'avoir de votre expertise. Notre deuxième invitée, vous la connaissez également, c'est Madame Aïssar Midani, souvent interrogée et expertisée sur la question syro-française. Bonjour Madame Midani, ravie de vous avoir avec nous.
Bonjour, bonjour à votre invité, merci de votre invitation. Et bonjour à l'ensemble de tous les téléspectateurs de Presse TV.
Alors, Madame Midani, on va commencer par vous, si vous le voulez bien. Alors, on a vu depuis 20 jours, plus de 20 jours, puisque c'est depuis le 7 octobre qu'a lieu l'affrontement, depuis la tempête d'Al-Aqsa. Madame Midani, on a vu l'Iran faire preuve de beaucoup de diplomatie. On a vu l'Iran, aux grandes dames de l'entité sioniste, aux grandes dames des Américains, se montrer extrêmement précautionneux dans la manière de réagir face à ce qui se passe à Gaza, à tel point que les Israéliens eux-mêmes sont à court de mots au sujet de l'Iran, puisque même le discours de l'Ayatollah Sayyid Khamenei finalement fait écho à la situation. Si depuis 1979, ce genre de discours était vu comme terroriste ou intégriste, alors d'aujourd'hui, au vu de la situation palestinienne, au vu de ce qui s'est passé en Syrie et en Irak, qui n'est plus un secret de polichinelle, au vu de la situation du Liban, les paroles de l'ayatollah Sayyid Khamenei résonne encore plus fort, puisque finalement l'actualité lui donne raison. Je parle ici de la dominance de l'impérialisme américain, du fait du manque d'humanité de ce genre de système, et finalement l'entité sioniste n'en est que la preuve et finalement leur résultat.
En effet, donc les positions iraniennes sont toujours très clair par rapport surtout de l'ayatollah Khamenei dans le soutien de la lutte du peuple palestinien, le soutien de la lutte du peuple syrien soutien de la lutte de tous les peuples face à l'hégémonisme américain. Et surtout, en fait, il est important, il a toujours montré le lien organique entre le pouvoir sioniste et le colonialisme et surtout l'impérialisme américain. Donc, en fait, c'est ça qui occasionne l'instabilité et les malheurs dans la région. Aujourd'hui, depuis le 7 octobre, on voit très clairement, en fait, ce déchaînement de violence qui est fait par le régime sioniste contre le peuple palestinien, qui a été aussi très vite appuyé de manière très ouverte par les Américains, mais aussi par les Français, par l'État français, par l'État britannique, par l'État allemand, en fait, je dirais, par les pays de l'OTAN, en fait, qui ont accouru à sa rescousse. Et on voit qu'aujourd'hui, très vite aussi, les responsables américains se sont succéder les uns après les autres, suivis par les chefs d'État européens, pour affirmer leur soutien, malgré l'abjection de cette agression, leur soutien à cette entité israélienne fantoche qu'ils ont créée de toutes parts, je dirais, en 1947, voire même en 1917, après les accords Sykes-Picot, et par les accords qui ont été aussi effectués donc, par les Britanniques et les Français, et cette colonisation sur la base de déplacement de population qui a été aussi créée, nourrie par le colonialisme britannique à l'époque, à partir de 1917-1920. Et qui a été consacré malheureusement aussi par l'ONU en 1948, par la création de cet État, sur les débris de la Palestine, en fait, et sur les débris du peuple palestinien. Donc, aujourd'hui, le peuple palestinien, après 100 années, 100 ans de résistance, et il se soulève après des années de massacres, hein, de déplacements de population, de pression et de vie horrible au quotidien. Et puis aussi, il faut le dire, après des années aussi d'embargo de violation de tout, appuyé par les pays de l'OTAN, appuyé aussi malheureusement par un silence assourdissant de l'ONU, qui est malheureusement, qui est censé être là pour défendre les intérêts des peuples ou pour défendre au moins la paix et la stabilité dans le monde, mais qui est maintenant sous la férule américaine et de l'OTAN, qui a toujours masqué et qui a tué et masqué toutes ces agressions et toutes ces violations de toutes les lois, de toutes les décisions de l'ONU, de la Charte internationale, de la Charte de l'ONU et du droit des guerres et du droit humain international.
Merci, Madame Midani. Merci Madame Midani. Alors Monsieur Imbruni, on va dire que la diplomatie et la politique depuis le 7 octobre de la part de la République islamique d'Iran a un peu piégé le monde occidental, puisque petit à petit les pays en dehors du monde occidental ont commencé à réagir, voyant que ces pays occidentaux qui parlent toujours de droit de l'homme ne réagissaient pas. On a vu des pays qui en général ne réagissent pas agir, réagir. On a vu des pays comme la Chili, la Bolivie ou la Colombie réclamer le retour de leurs ambassadeurs. On a vu également Bahreïn, un pays comme Bahreïn qui a normalisé avec les accords d'Abraham en 2020, donc sa relation avec l'entité sioniste, revenir sur ses pas en disant qu'il n'y aura plus ou qu'il n'y aura pas de relations économiques. C'est depuis hier que cette information est tombée. On a vu également Oman réagir, l'Algérie, le Parlement algérien également réagir et donner le droit au gouvernement de Tebboune de réagir en situation de guerre s'il le désirait, donc lui donner ce pouvoir-là. Ce sont des réactions qu'on a rarement vues, en tout cas depuis le président Nasser. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait vu pour la question palestinienne et même pour la question du Moyen-Orient, parce qu'on n'oublie pas encore une fois que la situation en Irak et Syrie a été faite, a été créée également par l'entité sioniste, par le gouvernement américain. Ce n'est plus un secret. Alors comment vous voyez donc cette situation mondiale réagir face donc à la situation palestinienne et surtout le fait que finalement le discours de l'ayatollah Sayed Khamenei appelle à sanctionner, appelle à réagir d'un point de vue économique pour tout simplement étouffer cette entité sioniste?
Vous savez, aujourd'hui, c'est un jour très important. C'est le jour contre la lutte contre l'arrogance américaine. D'abord, il faut saluer la jeunesse révolutionnaire iranienne. C'est grâce à cette jeunesse révolutionnaire iranienne qu'on a vu naître l'espoir de tous les peuples de lutter contre l'impérialisme. Il faut dire que la jeunesse révolutionnaire iranienne qui a créé la République islamique d'Iran, qui a monté dans toutes les résistances qu'on voit, c'est pas simplement dans le monde arabo-musulman, mais en Afrique, en Amérique latine, en Asie, c'est grâce à cette jeunesse révolutionnaire iranienne. Il faut le dire aujourd'hui. Et la voix de Abdelahian, la voix diplomatique de ce jeune, ce jeune qui vient de cette jeunesse révolutionnaire, c'était la voix de la résistance palestinienne. La voie diplomatique iranienne, elle a pris le drapeau de la résistance palestinienne. Et c'est pour cette raison, la résistance palestinienne, elle résiste. Elle résiste pas simplement par les moyens techniques, par les moyens militaires, par le soutien du peuple palestinien, mais grâce à cette diplomatie vivante de Abdelahian qui a mis en place un réseau, si vous voulez, d'actions autour de la Palestine, autour de la question palestinienne. Et on voit que, à l'autre côté, on voit le secrétaire d'État des Affaires étrangères américain, M. Blinken. Donc on a deux voix, la voix de la résistance représentée par Abdelahian par l'Iran et la voie de l'agression représentée par les États-Unis, par M. Blinken. Donc, en fait, on est rentré dans un affrontement direct, diplomatique, politique, de renseignement et peut-être il sera militaire. Parce qu'on vit dans une période historique aujourd'hui. Ce n'est plus la guerre à Gaza. La guerre à Gaza, elle s'est déplacée en une guerre mondiale. Et lorsque le discours du guide suprême, Sayyid Ali Khamenei, que Dieu le protège, montre l'ennemi, il dit cette guerre, ce n'est pas une guerre entre Israéliens et Palestiniens. C'est une guerre menée par les États-Unis. Donc il met le point sur les i. C'est-à-dire, c'est les Américains qui ont tué 4000 enfants. C'est ce que le président Raisi l'a dit hier. C'est les Américains qui tuent les enfants palestiniens. C'est les Américains qui tuent les femmes palestiniennes. C'est les Américains qui sont responsables devant le monde de ce génocide à ciel ouvert. Donc, on voit que hier même, le Congrès américain, il a voté pour donner 14 milliards aux criminels. Donc, il finance les crimes. Ils financent les criminels. C'est pour cette raison, autour du monde, on voit en France, en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, mais surtout aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande, tout le monde occidental, c'est-à-dire le monde occidental, les peuples de l'Occident se réveillent. Et le peuple de l'Occident se soulève contre les gouvernants, ceux qui colonisent la Palestine, pour dire halte au massacre à Gaza. Ça, c'est un grand changement. C'est des milliers qu'on voit tous les jours. Moi, ici, à Paris, ou à Lyon, ou à Marseille, ou à Bordeaux, ou à Strasbourg, je vois tous les jours des manifestations pour la Palestine. Malgré les problèmes qu'on a aujourd'hui en Europe et en France, des crises politiques, des crises économiques, des crises sociales.
Merci, monsieur Amrouni.
Elle revient dans l'intérêt du monde. Donc, on est dans une période très critique où on va passer dans un changement de carte. C'est ce que les Américains veulent. Les Américains veulent changer la carte du Moyen-Orient.
Merci,
L'Iran
monsieur Amrouni.
Et l'acte de la résistance veut que l'impérialisme américain dégage de la région. Donc, on est dans une période très critique et on attend dans quelques minutes, dans quelques heures, le grand discours de Sayyid Hassan Nasrallah qui va mettre en place, si vous voulez, les grandes lignes de ce qui va se passer dans les jours et les semaines et les mois qui viennent.
Merci, M. Amrouni. Madame Midani, quand on reprend donc l'un des propos forts du discours du leader de la révolution islamique, c'est-à-dire les sanctions, est-ce que vous pensez que ça pourrait fonctionner? Est-ce que vous pensez que les pays, parce que finalement ce sont toujours les mêmes pays qui n'ont jamais engagé réellement leur volonté concernant la cause palestinienne, à part certains discours, donc on pense notamment au Qatar, on pense notamment l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que cette fois, des sanctions pourraient fonctionner et qu'ainsi, ça pourrait étouffer les besoins, par exemple, en énergie de l'entité sioniste?
En fait, je crois que le spectacle de tous ces génocides qui sont opérés par l'armée israélienne et comme disait votre invité, M. Amrouni, c'est par l'armée américaine, à vrai dire, qui sont opérés contre une population isolée, une population civile, etc., ça provoque un tel sentiment de révolte chez les peuples. C'est ça aussi qui fait que les rues de tous les pays, d'ailleurs, y compris les États-Unis, l'Australie, etc., se sont remplies de drapeaux palestiniens, malgré les interdictions, malgré aussi l'étouffement de l'information et l'interdiction aussi de l'information à circuler. Bon, donc, il y a une pression populaire importante. On peut dire, vous aviez parlé aussi du fait que le Bahreïn a changé de donne hier. Ils ont annoncé qu'ils sont prêts à chasser où ils l'ont fait l'ambassadeur israélien. Bahreïn était un des pays les plus avancés dans la normalisation des rapports avec Israël, mais ça a été sous la pression du peuple. Donc on peut espérer que sous la pression des peuples, effectivement, que le boycott et ces sanctions contre Israël fonctionneront étant donné l'abjection des crimes israéliens actuels. Il faut savoir même que ça fait des années qu'on appelle à un mouvement de boycott des investissements sanctions qui fonctionne et qui a fait mal déjà à l'économie israélienne.
Merci, Mme Idani. Bon, c'était là-dessus que je voulais sauter. Je me permets de vous interrompre. C'était là-dessus exactement sur ces fameuses autres sanctions que les peuples du monde sont en train de faire. On voit un mouvement de masse à travers le monde à chercher à sanctionner tout de compagnies qui cherchent à aider ou subventionner donc l'entité sioniste. Et donc là, cette question-là, je la voulais à M. Amrouni. M. Amrouni, est-ce que vous avez vu de vous-même donc ces fameux boycotts? On entend parler sur les réseaux sociaux de Starbucks fermé, de McDonald's en situation de fermeture, de même Carrefour se retrouve en vide. Est-ce que vous-même, vous percevez cette envie de boycott qu'on peut retrouver en Europe? Parce que finalement, ce sont surtout les pays européens qui représentent le fonds le plus important qui sort et qui vend vers l'entité sioniste.
Bien sûr, on le voit parce que le mouvement de boycott, il est parti de l'Europe, il est parti de la France. Et il faut le rappeler. Et que la jeunesse européenne, aujourd'hui, elle est très, très, très active contre ces marques et contre ces enseignes. Avec les génocides qu'on voit tous les jours, maintenant le boycott, il devient naturel. C'est-à-dire les jeunes entre 15 et 35 ans en Europe, ils soutiennent la Palestine, ils soutiennent la résistance palestinienne. Et ils n'écoutent plus ni télé, ni radio tenues par les sionistes en Europe. Par contre, sur les réseaux sociaux, il y a tout un mouvement qui réussit, qui commence à réussir pour dire halte au massacre à Gaza, pas simplement par la parole, mais par des actions directes. Les actions directes, c'est contre ces enseignes, c'est contre ces grandes maisons de distribution, c'est contre ces marques qui financent réellement les tueries en Palestine. C'est-à-dire lorsque les Américains donnent 14 milliards de dollars, ces 14 milliards de dollars, c'est les marques, c'est les grandes enseignes qui les payent. Et qui achète ces grandes enseignes? Malheureusement, c'est tous les peuples arabo-musulmans. Parce qu'il faut rappeler, que les premiers responsables de ces massacres, c'est les Arabes. Il faut le dire, il faut avoir le courage. Il y a 140 millions d'Arabes autour de la Palestine, 140 millions. Il y a 105 millions d'Égyptiens. Il y a je ne sais pas combien de Jordaniens. Toute cette partie-là doit se réveiller, doit aider le peuple palestinien. Parce que ce n'est pas l'affaire des Américains, ce n'est pas l'affaire des Européens, c'est l'affaire d'abord des Arabes. Des Arabes autour et aussi des musulmans comme le gouvernement turc ou le gouvernement pakistanais, mais aussi le gouvernement saoudien. Le gouvernement saoudien doit agir. C'est ça le message de Sayyid Ali Khamenei. Le message de Sayyid Ali Khamenei, il encourage les grandes sanctions, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et l'investissement. Parce que 75% du pétrole et du gaz pour l'entité sioniste vient des pays arabes. Il faut le rappeler. Et donc, aujourd'hui, on est face à ces responsabilités. C'est ce que Saïd Hassan Nasrallah va le dire tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'être responsable ou on n'est pas responsable de la Palestine? Qui sera responsable? Et c'est pour cette raison, encore une fois, l'opinion publique européenne va jouer un rôle très important pour les sanctions. Les sanctions au niveau commercial, les sanctions au niveau du boycott, parce que le mouvement de boycott, il est réel en France, est réel en Italie.
Merci, monsieur Amrouni. Merci, monsieur Amrouni. Désolé, c'est toujours 25 minutes à devoir respecter pour notre débat. On va finir avec les quelques mots de conclusion de madame Midani. On sait depuis le 69e anniversaire des premiers martyrs pour l'indépendance algérienne, que le Parlement a donné le pouvoir au gouvernement Tebboune, je l'ai dit au tout début du débat, donc d'avoir des actions de guerre contre l'entité sioniste. Il ne faut pas oublier que l'entité sioniste a un axe sur la mer Méditerranée, qu'il y a des marchandises qui viennent de là. On pense à Gibraltar. Est-ce que vous pensez qu'une des actions de l'Algérie, en écoutant le mouvement mondial, comme l'a dit M. Amrouni, sur les sanctions, est-ce que vous pensez qu'il pourrait sanctionner donc cet antisioniste de cette manière-là? En quelques mots, Mme Midani.
En tout cas, l'Algérie, elle n'est pas actuellement, elle ne fait pas partie de l'axe de la résistance, mais elle soutient très fortement en fait la résistance palestinienne. Je pense qu'elle pourra effectivement mener des actes de résistance, comme aussi des actes de boycott importants. Mais d'un autre côté aussi, elle peut aller jusqu'à même intervenir à sa manière, je dirais, dans la résistance palestinienne.
Il ne faut pas oublier que l'armée navale, algérienne est l'une des plus fortes de la région. L'armée algérienne est loin d'être débutante. Mmh. C'est l'une des armées les plus fortes de l'Afrique.
Tout à fait. Ceci face à la présence américaine très, très copieuse, j'allais dire, dans la Méditerranée et dans la mer Rouge. Et effectivement, elle peut avoir une présence dissuasive, voire active, hein, dans le sens du soutien du peuple palestinien. Je voudrais ajouter un point quand même, c'est qu'aujourd'hui, cette guerre, je dirais, c'est une guerre de la justice et contre l'injustice, et c'est la guerre de la révolte contre l'oppression des êtres humains, et contre l'hégémonie des pays américains et de l'OTAN, en fait, sur toute la région.
Donc, merci, Madame Idani.
On verra que beaucoup de peuples s'y joignent.
Merci, Madame Idani. Merci, Monsieur Amrouni, pour vos deux expertises. Encore une fois, 25 minutes, c'est court, mais on a fait pratiquement le tour de la question. Moi, je vous remercie, chers auditeurs, de nous suivre. N'hésitez pas à voir notre programme ou revoir notre programme sur notre site Internet ou nos réseaux sociaux tels que VK. Moi, je vous retrouve pour un autre sujet du débat ici, dans les studios de Presse TV, toujours dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Les États-Unis se dirigent-ils vers une nouvelle crise 15 ans après la crise du crédit de 2008? Les analystes économiques mettent en doute les allégations de boom économique du gouvernement américain. Les États-Unis pourraient se diriger à nouveau vers des troubles économiques 15 ans après que la crise financière de 2008 ait secoué le pays, affirment des experts. Le géant financier mondial Lehman Brothers a déposé son bilan le 15 septembre 2008, plus de 150 ans après sa création. Ce fut la première grande victime américaine de l'effondrement des prêts hypothécaires à risque. Le premier avertissement de la crise du crédit est venu un an plus tôt, avec le petit prêteur hypothécaire britannique régional Northern Rock, après avoir demandé à la Banque d'Angleterre un soutien en liquidité en raison de son modèle économique basé sur la titrisation et dangereusement surendetté. D'énormes plans de sauvetage de banques jugées trop importantes pour faire faillite, financés par les contribuables, ont été accompagnés de mesures d'austérité gouvernementale qui ont réduit les dépenses sociales et provoqué des troubles à travers l'Occident. L'économiste Jack Rasmus a déclaré à Sputnik que la réponse du gouvernement aux crises consistait à donner d'une main et à reprendre de l'autre, rejetant ainsi les gens dans la pauvreté. Pendant la crise du Covid et le confinement, certains programmes ont été créés, des programmes sociaux, en d'autres termes, pour empêcher le pays de s'effondrer totalement, a déclaré Rasmus. Mais ces programmes sociaux ont été supprimés. Dès qu'il est apparu que l'économie était en train de rouvrir, les démocrates américains ont commencé à réorienter les dépenses des programmes sociaux vers des subventions aux investissements des entreprises. Ces programmes comprenaient des services de garde d'enfants, qui constituaient le principal contributeur à l'élimination de la pauvreté, mais cela n'a duré que 6 mois. Et lorsqu'ils ont retiré ce programme, les gens se sont retrouvés de nouveau dans la pauvreté. Il a souligné que l'ancien président Barack Obama avait utilisé le même tour de passe-passe après la crise de 2008-2009. Obama a dépensé 787 milliards de dollars en guise de sauvetage, puis 2 ans plus tard, il a convenu avec les républicains de réduire les dépenses dans les programmes, l'éducation et tout le reste de plus de 1 000 milliards de dollars, a déclaré Rasmus. Alors, il donne d'une main pendant la crise et quand la crise est passée, ils le reprennent. C'est exactement ce que Biden a fait. Cette fois, ils ont dépensé plus de 2 000 milliards de dollars dans ces programmes sociaux. Chômage, allocation, échec, garde d'enfants, etc. 2 000 milliards de dollars, a ajouté le commentateur. Mais ensuite, en 2022, ils l'ont fermé. Le gestionnaire de patrimoine David Tavul a déclaré à Sputnik que même si la réserve fédérale américaine tentait de créer une nouvelle crise du crédit pour contrôler l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, cela n'aurait d'effet qu'une fois que le reste de l'argent de relance COVID imprimé virtuellement par la Fed aurait été dépensé. Il faudra du temps pour que la hausse des taux par la Fed se poursuive et se répercute sur l'économie et mettre suffisamment de pression sur les dépensiers, les consommateurs, pour qu'ils continuent et réduisent leurs dépenses, a déclaré Tavil. Vous ajoutez à cela le fait que les consommateurs ont beaucoup d'argent excédentaire à la suite des mesures de relance liées au COVID. Les gens sont devenus fous en termes de dépenses, leurs capacités de défense sont devenues incroyables, et donc cela a fait monter les prix. Alors que le président Joe Biden vante le succès des politiques dites « bidénomiques » de son administration, certains pensent que la croissance est sur le point de se heurter à un mur. Des tonnes d'argent ont été injectées dans le système. Maintenant, ce retrait doit avoir lieu ici. La fête doit prendre fin, a prévenu Tavil. Cela ne peut pas durer éternellement, car cela devient alors un problème pour le gouvernement fédéral. Mais le bilan de notre gouvernement est brisé et le parti doit donc prendre fin. L'expert du marché Todd Buba-Horwitz a déclaré à Sputnik qu'un problème majeur était les médias menteurs qui vous donnent de fausses informations avec le président qui, avec ses nouvelles publicités, vous dit quel excellent travail il a fait pour l'économie. Il a déclaré que le chiffre officiel de l'inflation de 3,7% était une blague risible et que le taux réel était d'environ 20%. Les 3,7% excluent la nourriture et l'énergie et le faible pourcentage d'utilisation de la nourriture et de l'énergie représente 4% du total de la jauge totale. Donc, si vous me dites que la personne moyenne seulement 4% de son argent va à la nourriture et à l'énergie, je te traiterai de fou, a déclaré Horwitz. En dehors d'une urgence, notre dépense numéro un, cette nourriture et cette énergie disparaissent. Vous devez faire le plein de votre voiture. Vous devez chauffer votre maison. Vous les gardez, manger de la nourriture. Vous devez nourrir votre famille. La nourriture continue d'augmenter, le pétrole brut continue d'augmenter, l'essence à la pompe continue d'augmenter, le chauffage continue d'augmenter, les coûts de l'emploi continuent d'augmenter. La bidénomique est un échec total, comme l'ensemble de l'administration, en ce qui concerne la prise en charge de l'économie, a-t-il ajouté. Le commerçant du marché a imputé une grande partie de cette inflation aux taxes d'accises étatiques et fédérales sur le carburant des véhicules. Ils font donc monter les prix de l'essence. Ils reçoivent plus d'argent des impôts du peuple américain, ce qui explique exactement pourquoi l'inflation est hors de contrôle. Il a également mis en doute les perspectives économiques optimistes de la Maison-Blanche. « Je me fiche de ce que l'on dit. Nous sommes en récession », a déclaré Horwitz. « Nous ne proposerons pas comme ils voudraient le croire. Le gouvernement dit que nous avons créé des emplois. Mais les chiffres réels et les faits sont que nous avons perdu 514 000 emplois au cours de l'année civile 2023. Voilà donc les raisons pour lesquelles les chiffres sont tous des déchets. Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.